Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré qui a fort à faire aujourd'hui. Énormément de messages, de standards qui explosent, c'est assez incroyable. On est également avec le journaliste de Marianne Perico-Légas, la militante associative Loumir Lapré. Et puis avec Benjamin Muller, journaliste et auteur de podcast pour enfants. On va bien sûr évoquer dans un instant la visite reportée du roi Charles III à Paris. Est-ce que c'est scandaleux? Dites tout ce que vous en pensez au 32-16 et sur l'application RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On se demandera notamment s'il faut changer de Premier ministre. Il y a des noms qui circulent. On vous les donnera dans ce zapping. Il y aura également à 14h, on évoquera l'infidélité des femmes qui augmente. Et oui, plus d'un tiers des femmes avouent avoir déjà trompé leur conjoint.
Ah ouais.
Mais peut-on rester fidèle toute sa vie? Là encore, on attend vos témoignages. Est-ce que ça fait 50 ans que vous êtes avec la même personne? Vous n'avez jamais craqué, ou est-ce qu'au contraire vous mettez des petits coups de canif dans le contrat de temps en temps? Dites-nous tout au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, Estelle Midi.
Et on va continuer Estelle Midi avec le report du jour. Eh bien, c'est celui de la visite du roi Charles III à Paris. Il devait arriver ce dimanche. Le roi, il devait dîner, souper à Versailles lundi. Il devait également visiter Paris et Bordeaux. Eh bien, ça ne se fera pas. Rémi, quelles sont les explications avancées par l'Élysée?
Le communiqué de l'Élysée est tombé en toute fin de matinée. Je vous le lis. Compte tenu de l'annonce hier d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites, le mardi 28 mars prochain en France, la visite du roi Charles III sera reportée. L'Élysée poursuit, cette décision a été prise par les gouvernements français et britanniques après un échange téléphonique entre le président de la République et le roi ce matin, afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié. Cette visite d'État sera reprogrammée dans les meilleurs délais. Voilà ce que dit la présidence française. Ensuite, on a eu des informations qui sont venues de Buckingham, disant que c'est Emmanuel Macron qui a proposé à Charles III de reporter sa visite vu le contexte actuel et que le roi a évidemment accepté et a compris cette démarche, ce report. Le Downing Street, ensuite, le gouvernement britannique a dit que la France qui avait demandé le report de cette visite. Et puis une information de Buckingham qui nous dit également que Sa Majesté le roi Charles III et Camilla se réjouissent de pouvoir venir en France à une date qui sera fixée ultérieurement.
Ça va être le week-end du 15 août, ça fait pas un pli. Comme ça, il y a vraiment un souci. Perico-Légas, le report de cette visite, est-ce que vous trouvez ça scandaleux?
La formule utilisée, la République française ne sera pas en moyen de protéger le roi d'Angleterre.
C'est pas la formule qui a été utilisée. Hein.
Des troubles sont annoncés, donc on ne pourra pas assurer la sécurité ou la sérénité de la visite du roi à cause de troubles qui pourraient arriver. Je sais pas, on l'envoie dans les Alpes, on se met à un endroit, voilà. Quel aveu d'échec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personnalité qui est le roi d'Angleterre, qui vient très souvent en France, à titre privé, depuis très longtemps, il a des amis, il a des relations, il aime beaucoup les châteaux de la Loire, il adore Paris, où il a vraiment...
Vous avez qu'à faire ça à Chambord.
Oui, ben, c'est pas ça. Cet homme ne va pas se laisser manipuler. La diplomatie veut que ce soit la France qui prenne l'initiative et assume la décision. Il va pas humilier la France en disant « je ne viens plus dans ces conditions ». Mais c'est évident qu'il a dû se poser la question et que si le voyage avait été maintenu, il se réservait le droit de dire « je pense que les situations ne sont pas réunies et je viendrai très vite ». Voilà, il a pu appeler, ils se sont mis d'accord là-dessus, et que ce soit Macron qui dise qu'il a pris l'initiative. Voilà. Écoutez, on nous a dit jusqu'à il y a quelques heures que c'était maintenu. Ça veut dire que la République, là, ne maintient plus la situation. Et qu'en termes d'image internationale, c'est catastrophique. Parce que, bon, il y a des troubles dans Paris, il y a des manifestations, au point d'annuler une visite officielle, surtout qu'elle était hautement symbolique. C'est un pays partenaire dans l'histoire de France. On s'est battu avec eux. Churchill, 40, Londres est la ville où le général de Gaulle est allé. Il avait décidé, lui, il aurait pu aller dans plein de pays. Il est quand même le chef du Commonwealth. Il aurait pu même décider d'aller aux États-Unis. Il décide de venir en France, symboliquement, après le Brexit, pour dire, les liens, l'entente cordiale de 1905 est maintenue, je viens en France comme symbole, c'est un message fort. Il peut pas le faire. parce qu'il y a des troubles en France, ça la fout quand même, très mal.
Ça craint, on va dire, pour vous, Benjamin Muller. Au niveau de l'image de la France à l'étranger, quelle image on renvoie, quoi?
Moi, je dirais moindre mal que d'annuler, parce que ça craint. Non, ça craint pas. En fait, on va le remettre. Moi, je vais vous dire, si on le remet 6 mois, je vais tout à fait m'en remettre. Oui. L'avenue du roi, que j'aime par ailleurs tout à fait, j'ai aucun problème avec ça. Il revient dans 6 mois, ça me pose pas de problème, ça m'empêchera pas de dormir.
Jamais, ça se trouve.
En revanche, j'espère que si. Je pense quand même qu'ils vont
fixer une date,
rapidement. Non, le truc, en fait, ce qu'ils craignaient tous, c'était que se passe quelque chose lors de l'avenue pendant les 3 jours. Et là, l'image de la France dans le monde entier, il y aurait un problème. Imaginez un manifestant. Il était question qu'ils prennent le TGV pour aller à Bordeaux. Ouais. Imaginez qu'il y a un blocage des voies. Et que le roi soit obligé de sortir en catastrophe des TGV. Voilà les scénarios qui étaient imaginés par les préfets. Et c'est ça qui aurait fait le tour du monde. Parce que moi, je vais vous dire, aujourd'hui, aux États-Unis, au Brésil et en Inde, si vous voulez, ils en entendront pas parler, du roi qui vient pas, qui annule parce qu'il y a des manifs en France. En revanche, s'il y avait eu ces images, là, le monde entier
n'aurait
entendu. Donc, oui, d'accord. Enfin, globalement, je pense pas que ça fasse la une en Italie et en Allemagne qu'il annule sa venue. Donc, moi, je trouve que c'est un moindre mal. Vaut mieux, vraiment. Quand j'ai entendu Laurent Nunez, c'était jeudi. Ouais. Hier, il était sur BFM. Il dit, non, mais moi, je suis hyper serein. J'ai pas du tout peur, ça va très bien se passer, les préfets sont au taquet. Je me disais, mais quelle folie, on peut pas maintenir ça. En fait, ça me paraissait complètement dingue. Donc en fait, moi, j'ai plutôt tendance à penser, peu importe que ça vienne de la
France. C'est une sage décision. C'est l'impact
politique. Oui, mais l'impact,
c'est
moindre mal par rapport
sur le tourisme, en fait. Vous dites, si le roi annule, vous êtes touriste britannique.
Les annulations,
vous êtes baladé dans Paris ces derniers jours avec les poubelles.
Oui.
Et je suis tombé sur une famille d'Américains hier. Un papa, une maman, pardon, je sors 2 secondes du sujet. Et leurs 3 enfants qui, franchement, étaient en train de slalomer entre les poubelles. Les pauvres, ils ont le rêve de Paris, là, ils tombent de haut. Donc le tourisme, de toute façon, en général.
Il y a 2 touristes qui sont pris un coup de matraque, paraît-il. Voilà.
Oui, il y a 2 étudiants polonais qui ont été en garde à vue.
Qui venaient. Non, c'est pas évident, Paris.
C'est le charme français.
Ah non, mais.
Ils ont vu Paris, quoi.
Il y a Kiev et il y a Paris, attention,
Si on veut parler du maintien de l'ordre en Pologne, on peut en parler aussi.
Oui, enfin,
On est d'accord.
Non, mais.
Lumière, après, vous regrettez ce report?
Non, moi, je pense que c'est en effet sage à la fois en termes sécuritaires et aussi en termes d'image. Je pense que le fait que Emmanuel Macron se concentre sur autre chose que la réforme des retraites actuellement et une tentative de recréer un dialogue et de se réconcilier avec les partenaires sociaux et la rue me semble bien plus urgent. Et par ailleurs, je voudrais revenir sur l'image de la France.
Ouais.
On a, je crois, avec les réseaux sociaux, on vit tous un peu dans des bulles. Donc j'entends bien que moi, je vis aussi comme tout le monde dans une bulle. Mais ce que je voudrais dire, c'est quand même que j'ai beaucoup milité à l'étranger, notamment le mouvement climat est un mouvement qui est établi dans la presque totalité des pays, notamment des pays dits développés.
Oui.
Et en fait, la plupart des jeunes et des syndicats, etc., sont émerveillés de notre capacité à résister et à se faire entendre. Vraiment, les Américains, notamment, à qui on a infligé de l'austérité, des mesures extrêmement dures pour protéger l'économie, sont vraiment impressionnés de notre capacité à nous organiser, nous faire entendre, à tenir dans la durée. Donc je pense que pour l'image de la France, au-delà d'une image diplomatique, l'image populaire, en fait, ce qu'on est en train de faire en ce moment, elle participe aussi de une mythologie française.
Oui, moi je pense que tous ceux qui devaient venir en France, là je veux dire fin mars ou début avril, ils ont leur voyage.
Mais c'est le sujet.
On est le premier pays touristique au monde.
Oui, mais pendant le Covid, on nous a empêchés de sortir pendant des mois.
Tous les pays étaient logés à la même
chose. Estelle, ça aurait été pire s'il y avait un problème avec. Et là, les images dans le monde entier, où tu le vois, il prend un caillou, je sais pas quoi, un pavé qu'on lui envoie sur sa bagnole.
On va exagérer.
Qu'est-ce qu'il craignait? Il craignait ça.
Ça aurait été modifié.
Charles s'est déjà pris des œufs et c'était en Angleterre, c'était pas en France.
Il s'est pris 2 fois des œufs. Et il a eu des réactions d'ailleurs très stoïques.
Il est royal.
Flegme très britannique.
Exactement.
Oui, Rémi.
Message de Sylvie sur Direct Studio Mafi. Vit à Londres. Ouais. Intéressant. Bah oui. Elle a tellement honte d'être française et de la France. Macron est considéré ici, en tout cas là-bas, à Londres, comme un guignol arrogant. Déjà, après le match désastreux du Stade de France où les Anglais se sont fait accuser à tort, alors que c'était des délinquants bien français qui dépouillaient les Anglais. Et maintenant, le roi annule sa visite. Il faut voir ce que les Anglais disent des Français et de Macron. J'ai honte. Tellement honte.
Après, on leur a mis 53-10 lundi dernier.
Ouais. Exactement.
Alors, on va y aller, mollo.
On a une capacité.
On voit quand même la journée sportive qui.
On a quand même une capacité à facilement dire qu'on a honte de nous.
On est avec Alex Taylor, c'est notre invité sur ce débat. Alex Taylor, journaliste, bien sûr. Salut Alex.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi.
Je vous en prie.
Alex Taylor, est-ce que c'est la honte, finalement, qu'on reporte cette visite du roi Charles III pour la France ?
Vous savez, chacun vit dans sa bulle, hein, comme vous venez de le dire, et je crois que beaucoup de gens projettent leurs propres idées sur ce qui vient de se passer. Si vous voulez, moi, j'étais étonné de voir pour la première fois ce matin que les journaux britanniques, la presse, ont ouvert sur ce qui se passe en France. Mais il y a deux réactions, c'est-à-dire il y a de la compréhension totale pour le fond du mouvement, parce que les Britanniques prennent leur retraite à 67, il est question de bouger à 68, ouais. Et avec des retraites privés qui sont nettement moins généreux que ce qu'il y a en France. Donc ça, en général, les gens ne comprennent pas du tout le fond. En revanche, il y a une certaine jalousie, parce qu'il y a beaucoup de mouvements contestataires sur les salaires. Les infirmiers, les professeurs, par exemple, font beaucoup la grève en ce moment, parce que l'inflation est plus haute qu'en France. Donc, il y a beaucoup de jalousie, de questionnement dans le genre, mais pourquoi nous, on ne descend pas aussi dans la rue pour défendre ça? Mais sur la question spécifique qui provoque les heurts en ce moment, en France, la retraite, ils sont beaucoup moins compréhensifs parce que faut aller sur place en Angleterre. La retraite est beaucoup moins généreuse, à moins d'être très riche et d'avoir des recettes privées à son compte, notamment avec le prix des maisons. Donc ça, ils comprennent pas du tout le fond, mais ils jalousent un peu la forme.
Mais Alex Taylor, est-ce que vous pensez que l'image de la France, elle est détériorée quand même avec ce report ? C'est-à-dire que les Britanniques vont hésiter avant de venir en France, justement ?
Si les Britanniques, non. Enfin, les rapports sont très tendus depuis 7 ans à cause d'autres choses pour les Britanniques, à cause du Brexit. Donc, eux sont très demandeurs. Hein. Cette visite se place dans le cadre de 7 ans de très mauvaises relations où, en gros, Boris Johnson et ses sbires ont insulté la France. Tout le débat sur le Brexit, j'ai jamais vu les relations aussi tendues à cause du Brexit. Quelques images, effectivement, mais en Grande-Bretagne, on sait que les Français, they go into the streets, ils descendent dans la rue. Donc, si vous voulez, c'est pas étonnant, ça se passe une fois par an en général, pensent les Britanniques. Donc, c'était une visite qui était très importante du point de vue commercial. Les Britanniques se sont érigés beaucoup de barrières avec leurs plus proches voisins pour faire du commerce. Ouais. Donc, ils comptaient beaucoup sur l'image de cette visite pour améliorer à nouveau, pour avoir quelques opt-in, eux qui avaient beaucoup de opt-out quand ils étaient dans le club. Maintenant qu'ils sont plus dans le club, l'Union européenne, ils veulent avoir des opt-in. Donc, avec le programme sur la science, par exemple, ils veulent bénéficier des sous européens. Donc, ça, c'est acquis maintenant. Et ils voulaient de meilleures relations commerciales.
Ouais,
donc,
ça, c'est mort.
Partie remise d'ici un mois. À mon avis, le roi va venir, ça va être plus tranquille.
Pas d'ici un mois. Oh là là, Alex Taylor. Bon, c'est pas gagné,
On espère, mais espérons tous.
Ça part pas comme ça, là.
Dans un autre. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup Alex Taylor, journaliste européen, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Perico Légas, est-ce qu'on se dit pas quand même que la France est un peu sur le déclin là, tout de même? On parlait, Rémi parlait tout à l'heure dans un des messages de la finale de la Ligue des Champions qui a été dramatiquement organisée. Enfin, c'est un fiasco en Mondovision, un fiasco total. On se dit quand même là, il y a la visite du roi Charles III qui est annulée. On a quand même la Coupe du Monde de rugby qui est dans un an. Hein. Les Jeux Olympiques la Coupe du Monde de rugby qui est dans quelques mois. Les Jeux Olympiques dans un an. Ouais. On se dit.
Ma chère Estelle, convenons que depuis le 17 novembre 2018, la première manifestation des Gilets jaunes, ce pays est en souffrance. Cette grande nation, ce merveilleux pays, auquel nous sommes très fiers d'appartenir et qui a été le symbole souvent de la cohésion sociale, du progrès social, de la liberté, on est en souffrance, on est sur des fractures sociales béantes qui remontent à 95. Ça, c'était le thème de la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Voilà, la fracture sociale est là, elle n'a pas été résorbée. Faut pas jeter la pierre à Emmanuel Macron. Aucun des chefs de l'État et des majorités n'en résulte rien. Il y a une fracture sociale, il y a une détestation, il y a une violence, il y a une crispation qu'on n'a pas dans d'autres pays. Ne serait-ce que la façon de traiter les policiers, aucun policier espagnol ou italien ne se serait... Donc, il y a de la haine dans ce pays, et ce sont des thèmes qu'utilisent les gens du gouvernement. Il y a de la haine dans ce pays. Il faut absolument apaiser ce pays, et la souffrance aboutit aujourd'hui ou sur des réformes des retraites qui pourraient rester des conflits sociaux normaux, on est avec Paris, pas à feu et à sang, mais avec des scènes d'une extrême violence. Je vous signale que c'est quand même la mise à sac des Champs-Élysées et d'avenue Kléber qui avait décidé le président de la République à lâcher 17 milliards. Alors on les a peut-être pas vus ensuite,
mais ça
veut dire que ce pouvoir, à un moment donné, il a peur de son peuple. Mais pourquoi en arriver là avec des syndicats quand même qui sont responsables? La CFDT tend la main depuis 2017 à Emmanuel Macron. J'allais dire, c'est son syndicat idéologique. Voilà. Donc cet homme qui a du talent, qui a du génie, qui a du courage, a en même temps une lecture de la société française et de la politique française erronée sur certains secteurs. Il l'avait écrit dans Révolution en 2016. Il ne croit pas aux corps intermédiaires. Il doit revoir sa lecture. En tout cas, aujourd'hui, le pays est malheureux. D'accord. Le pays est pas content. Ouais. On voit que ça arrive à des points de crispation. À lui, il est le président de la République. Peut-être qu'un jour, il faudra changer ce poste qui est peut-être pas la poste. À lui maintenant. À lui, c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. À lui, à faire un geste significatif. Peut-être de profiter de l'absence du roi d'Angleterre pour dire, on va se mettre autour de la table.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Il a du temps. Parce qu'il a du
temps. Il a déjà réservé Versailles. Donc, il fait ça à Versailles.
Il a ça à Versailles.
Philippe Martinez. Ils vont manger le caviar, là.
Pour son jubilé. Louvière Laprade, on sait qu'il y a une série très populaire qui s'appelle Émilie in Paris, qui magnifie Paris, qui d'ailleurs donne une image de Paris qui est
ridicule.
Légèrement surannée.
Oui, parce que là, c'est Paris brutal pour l'instant. Hein,
donc, voilà. Là, on est quand même sur une autre image. C'est-à-dire qu'Émilie in Paris, ça, c'est fini, quoi.
La pauvre Émilie, ouais. Moi, je pense que. Enfin, je dirais pas du tout la France est sur le déclin. Je pense que le peuple et tous les slogans extrêmement imaginatifs et créatifs qu'il y a en manif le montrent. Le peuple se rebelle contre des choses qui lui sont imposées. Moi, je pense, et je veux dire, ce n'est pas juste moi qui le pense, c'est avéré que plus il y a d'inégalités dans un pays, plus il y a des tensions, plus il y a des fractures.
C'est le cas en Angleterre, mais
exactement.
Mais
d'ailleurs,
les retraites sont bien moindres et ils sont étonnés de voir les Français se rebeller.
Oui, mais en même temps, ils sont jaloux. Je cite Alex qui nous dit que
oui, il passe pas à l'acte.
Mais oui, mais c'est pour ça que moi je trouve qu'on est un pays merveilleux. Écoutez, hier. Quand il y avait des lacrymos, des gaz, etc., il y a quelqu'un à une fenêtre qui a tiré des feux d'artifice. Et la foule a éclaté de joie. Dans quel autre pays il y a des manifestations, il y a un million de gens dans la rue, on tire des feux d'artifice et les gens sont heureux.
C'est adorable ce que tu es en train de dire.
Non, c'est pas adorable. C'est pas
non,
ne me méprise pas, Perico.
Non, je te méprise pas.
En disant ce que je viens de dire,
c'est plus sincère.
Tu méprises la foule.
Non, j'en ai vu danser. J'en ai vu danser. Et d'ailleurs, les gens disaient, il y a des manifestants. Non, non, il y a des gens formidables dans les manifestants. Mais le symbole, c'est quand même qu'il y a une souffrance.
Mais non,
il y a une décadence.
Bien sûr qu'il y a un.
Il y a même une décadence.
Les gens ne perdent pas des journées de salaire comme ça pour le plaisir. Mais ce que je veux dire, et ça c'est important, c'est que lutter, se révolter et en fait quoi, juste demander de la dignité et plus de respect, ça peut aussi se faire dans la joie.
Dignité, t'exagères un peu là.
Mais si, mais pourquoi la dignité? Mais regardez les pancartes.
Tu crois que les gens qui s'insultent au feu rouge parce qu'on s'est fait une queue de poisson, c'est la faute, hein, la crispation qu'il y a dans ce pays? Qu'il y a une haine dans ce pays qui s'est installée dans les rapports sociaux.
Là, on s'en change de sujet.
Vous posez une question, moi j'y réponds.
Oui, mais là, on change de sujet. On est de nouveau sur la réforme des retraites et c'est pas le sujet. On est avec Philippe qui nous appelle de Verneuil en Alatte, dans l'Oise. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Et Philippe qui est général à la retraite. Alors là, on va faire attention à tout ce qu'on dit.
Un peu d'ordre.
Ah bon, fallait pas le dire. Bah, fallait me dire de pas le dire. Moi, j'étais au garde à vous, général. Là, franchement,
mes honneurs, mon
général. J'aurais fait ce que vous vouliez. Mes honneurs, mon général.
Respect, mon général.
Respect.
En gendarmerie, c'est mes honneurs.
Ouais, mais enfin, bon. Alors, général, le sujet. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux qu'on annule la visite du roi Charles III en France? Est-ce qu'on a bien fait?
Je trouve pas ça. La réponse, elle est un peu dans la question. Hein. Si c'est pour que le président Macron dise au roi Charles, je peux pas aller te chercher à la gare du Nord parce qu'elle est en feu, on a raison de mettre les pouces. Hein.
Oui.
Ce que je trouve très important et très triste, c'est que c'est la preuve d'un échec absolu dans le régalien. Bien déjà sûr. Qu'on n'était pas très flambard en matière d'immigration, de justice, d'école. Mais dans ce cas-là, on est à la jonction entre le sécuritaire et la diplomatie.
Oui.
Et on observe un échec patent, hein, comme c'est le souligné Perico il y a quelques instants. Moi, vous savez, j'ai fait beaucoup d'international. Bon, vous avez dit que j'étais un ancien militaire. J'ai travaillé à l'OTAN, à l'ONU, etc. Et l'image d'un pays, ça compte. Ça compte énormément.
Sûr,
c'est extrêmement important quand on veut faire de la relation internationale. Et là, on montre une France qui est seulement en partie paralysée, mais qui est définitivement incapable d'assurer la sécurité et le protocole d'une visite d'État. C'est pathétique. On pourrait même dire que ce président, il a la choumoune, quoi. Hein. Il fait brûler Notre-Dame de Paris.
Et puis, c'est quand même pas de sa faute.
Non, mais ça lui arrive.
Là, c'est de sa faute.
Il y a un côté chat noir.
Il crée cette situation.
c'est la revanche des 53-10 au rugby. Ça, c'est quand même catastrophique.
C'est ce que je disais tout à l'heure, on a les mêmes références.
Moins anecdotique, on va remarquer que le roi d'Angleterre, sa première visite, elle va avoir lieu en Allemagne. Mais... elle n'aura pas lieu en France.
Ah, donc, ça fait mal.
Signe. C'était un signe diplomatique.
Mais vous avez raison.
Quand on est ou qu'on prétend être un leader européen, comme le président Macron, c'est pas anodin. Voilà.
Ouais. Donc, ça m'a beaucoup déçu.
Moi, je suis éprouvé. Qu'il aille en Allemagne au débat.
À l'intérieur ou à l'extérieur, je trouve qu'il ne tient plus la boutique. Et le même président a supprimé le corps des ambassadeurs, le corps des préfets. Ça, c'est du régalien à deux balles. Et je crois que l'origine de tout ça, c'est d'avoir plié le genou devant les écolos et les autres nudistes, là, à Notre-Dame de Landes. Les Landes, hein, où il y a eu
ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet.
Et les marchés financiers aussi, les deux.
C'est tout à fait le sujet, parce que c'est l'origine de ces échecs patents par la suite. Pour Notre-Dame-des-Landes, je rappelle, il y avait eu 184 décisions de justice, un référendum, des élus qui étaient complètement pour la chose, et il a plié. Et il le paye maintenant, et il continuera de le payer.
Tout ça pour Nicolas Hulot, je vous le rappelle.
Oui, ça c'est marrant. Merci Général. Merci Général, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Mes respects, mon Général.
C'est un plaisir de vous avoir, même si Loubière Lafray ouvre de grands yeux. Je sens que vous ne lui a pas plu dans ses propos.
Les Gilets jaunes et la crise actuelle ne viennent pas de la décision de Notre-Dame-des-Landes. Ça n'a aucun rapport.
Le Général a parlé de la forme de gouvernance.
Oui, mais on a quand même une littérature. On aime quand même se lyncher et se dire que dans le monde entier, tout le monde déteste. On aime ça, nous les Français.
On est des Gaulois, on est restés Gaulois. Des tribus rivales.
Astérix,
on aime ça. On aime dire que dans le monde entier, on se moque de nous. Dans le monde entier, on trouve que les Français font pitié. Bien sûr que c'est non. Aux États-Unis, la dernière chose, le Capitole, vous pensez qu'ils ont des leçons à nous donner? On a vu la violence, et c'est quand même, on est sur autre chose. Hier, c'était violent, le Capitole, c'était quand même autre chose.
C'est un coup d'État aux États-Unis maintenant.
On n'est pas à l'abri.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de dire que dans le monde. On n'est pas à l'abri, on arrive quand même très loin. À force de dire que dans le monde entier, on trouve que les Français ont fait pitié et tout.
On en est très loin.
De Bordeaux hier, de la mairie.
On en est très loin, la porte de la mairie de Bordeaux.
C'est fantastique.
Non, tu dis, on en est très loin. À Bordeaux hier, c'était un petit
coup d'État. Tentative de coup d'État. C'est quand même autre chose.
Des gens avec des armes à l'Assemblée nationale,
mais assaut du Parlement.
On ne peut pas comparer les deux.
Non, je suis d'accord.
Merci.
Cyril, on va terminer avec lui. Il nous appelle de Paris. Bonjour, Cyril.
Bonjour.
Ah, Cyril, vous allez rater la visite du roi Charles III. Vous qui étiez de Paris, vous auriez pu aller l'acclamer, tout ça.
Bah, vu les propos d'Emmanuel Macron, je pense qu'il vaut mieux pas mettre un roi en France en ce moment, de toute façon. C'est vrai que c'est plutôt adapté.
Enfin, c'est terrible ce que vous dites.
Oui, là c'est la phrase est mortelle, là.
On parle de plein de choses. On parle de l'image de la France d'un point de vue économique. On parle de la France vue de l'extérieur. Personnellement, en tant que Français, l'image que j'ai, moi, c'est la Révolution française, c'est liberté, égalité, c'est un peuple qui se bat pour ses droits. Donc je trouve qu'on est pile poil dans le thème et que finalement, ceux qui veulent pas venir en France parce qu'ils veulent pas voir les Français défendre leurs droits et la démocratie, d'une part, qu'ils viennent pas. Et
c'est nous qui avons annulé.
Ça dépend de qui on parle.
C'est nous qui n'est pas capable d'assurer la sécurité.
C'est normal d'annuler, mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que c'est anecdotique. C'est pas ce président, ça fait 6 ans qu'il se conduit comme une personne responsable pour nous, parce que nous, on est tous des imbéciles. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, que le roi il vienne ou pas, qu'il vienne pas, c'est pas très grave. Par contre, je trouve qu'au contraire, tous les pays étrangers, je pense, si on part pas au gouvernement, mais pas au peuple. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de fort qu'il y a chez nous. On défend notre démocratie, on défend nos droits. On n'est pas en train de demander d'arrêter de travailler et qu'on nous donne de l'argent qui est magique. On est en train de nous demander de respecter notre volonté. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi on parle d'autre chose. C'est juste à Macron qu'on devrait dire, écoute, la démocratie, ça veut dire quelque chose. Un outil, si je prends une hache pour couper un arbre, c'est un outil qui est bien adapté. Si je le prends pour aller couper ma viande à la cantine, ça va mal passer. Donc c'est pas parce qu'un outil existe qu'on doit l'utiliser n'importe comment. Il y a des valeurs, il y a des règles, et on a tendance à l'oublier un petit peu, je trouve.
Merci beaucoup, Cyril. Alors là, vos propos ont ravi Loubière Lafray.
Très belle
analyse
était pointue.
Cyril, qui nous appelle de Paris, qui est cadre dans l'informatique. Alors, on vous a posé la question, bien sûr, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le report de cette visite de Charles III, est-ce que c'est scandaleux, Rémi?
Ce n'est pas scandaleux pour 78% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Très large,
la première n'était peut-être pas présentée.
Oui, mais on n'a pas eu le temps.
Est-ce que ça abîme l'image de la France?
Voilà. Alors là, je vais vous poser une question, vous allez tout de suite comprendre. Est-ce qu'il faut changer de Premier ministre? Ce sera notre question dans un instant. Je pense qu'elle est bien posée, cette question. Elle sera dans le zapping. Et puis François Ruffin, bon, lui il souhaite tout simplement une nouvelle révolution française. Voilà, est-ce que c'est honteux venant de la part d'un député? C'est et puis nos commerces sont-ils en train de mourir? Ça c'est l'appel à l'aide de Thierry Marx ce matin. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur le plateau d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec Perico Légas, avec Loumire Lapré qui va certainement revenir sur le plateau. Elle est allée se désaltérer.
Absolument.
Et puis, elle arrive, regardez. Et puis, Benjamin Muller, 13h31, c'est l'heure eh bien, du zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On va démarrer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il changer de Premier ministre? Fragilisé par la réforme des retraites, Elisabeth Borne pourrait jouer les fusibles. Alors que la rumeur de l'arrivée de l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu, prend de l'ampleur du côté de Matignon. Et pour Étienne Liebig, le changement de Premier ministre n'est pas une bonne solution. Il faudrait directement changer de chef de l'État.
Personne ne croit un instant qu'un changement de Premier ministre changera quelque chose. On voit bien qu'en réalité, dans ce, on voit bien que c'est ailleurs que ça se passe.
Nous avons un président.
Nous avons un président de la République qui domine la situation. On voit bien que Madame Borne, il l'a mis dans une forme d'impasse. La pauvre Madame Borne, elle se retrouve coincée. Je pense qu'elle est pas dans une, elle est pas à l'aise avec ce qu'elle est en train de faire.
Elle est pas à l'aise, elle démissionne.
Elle n'est pas à l'aise. Il y a aussi, je vais t'expliquer un truc que tu connais peut-être pas, c'est l'engagement.
C'est une soldat.
Tu sais, quand tu t'engages, tu te dis, bon, je fais le sacrifice de moi-même, je m'engage dans un mouvement, je m'engage dans quelque chose. À un moment, automatiquement, tu vas être obligé d'avaler des couleuvres. Alors, soit tu déménages aux trois premiers jours, comme l'avaient fait certains ministres, en disant, mais là, c'est n'importe quoi, on est en train de m'entraîner dans un truc, tu te barres. Soit si tu te barres pas, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, c'est de la lâcheté.
En revanche, quand tu as échoué, tu dois partir.
Et là, en même temps, ça ne changera rien, un changement de ministre. Tout le monde le sait très bien.
Perico Légas, on change de Premier ministre. Est-ce que ce serait bien? Est-ce que Sébastien Lecornu est mieux placé?
Elisabeth Borne, avec tout le respect qu'on peut lui porter, est usée. Et elle a fait son temps. La maintenir, ça serait.
Elle a fait son temps, elle a fait 10 mois.
Elle a fait son temps politique. Bon,
ah bah super.
La pauvre.
Bah,
non, attendez.
Temps politique des femmes,
alors, j'ai jamais vu un Premier ministre. Alors, elle a fait son temps politique parce qu'elle vit une situation tragique et j'ai jamais vu un fusible aussi fusible que elle. Et n'ayez pas peur qu'il va la sacrifier s'il faut. Alors, moi, je dirais, on change de Premier ministre, ok. Est-ce qu'on peut remettre les règles du jeu en place dans cette Constitution? On a un problème dans la Constitution de la Ve République. Quand la majorité législative est la même que celui du président de la République, le Premier ministre est un collaborateur, comme avait dit Nicolas Sarkozy. Il existe un article 20 de la Constitution qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Si M. Macron veut faire un coup politique intelligent, il dit « je nomme un Premier ministre qui exerce l'article 20, c'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation avec le Parlement. Moi, je suis l'arbitre, j'interviens de temps en temps, je siffle la récréation, je vais voir mes clients qui sont le peuple français, je fais remonter. » Vous voyez, qui redonne un fonctionnement officiel. Le paradoxe de la 5e, c'est qu'elle ne fonctionne en réalité à la lettre qu'en période de cohabitation. Mm-hmm. Quand le Premier ministre. Et là, on voit bien que c'est le Premier ministre qui gouverne totalement. Et que le président est réduit un petit peu au chrysanthème ou aller voir les autres
Normalement, le président devrait être réduit, entre guillemets, à la politique extérieure.
Bien sûr. Non, vous donnez des grandes directives. Mais là, il avait dit, je serai Jupiter, j'avais trouvé génial. Je dis, on le verra de temps en temps, il interviendra dans les situations. Il est omniprésent, il s'occupe de tout. Du coup, il s'occupe tout mal et tout fout le camp. Mais là, la pauvre, je crois qu'elle a fait son temps. Je dis pas ça par mépris pour elle.
Comment? Sébastien Lecornu, c'est lui qui n'en avait pas encore parlé.
Il y a d'autres théories. Castex pourrait revenir parce qu'il a. Castex pourrait revenir parce
qu'il a.
Castex.
Oui. Bien sûr, n'oublions pas qu'elle a perdu les élections législatives, c'est-à-dire qu'elle ne les a pas gagnées. Castex était populaire, il peut revenir. Castex peut revenir.
Mais sans doute va se l'avenir.
Sauf que Castex n'a pas envie de se griller, bien entendu. Il peut appeler Bernard Cazeneuve en disant j'ouvre à gauche. C'est une théorie. Lecornu est une théorie. Il peut nommer François Bayrou, qui attend que ça.
Bien sûr, mais sauf que François Bayrou a des petits ennuis.
Donc il a plein de possibilités. Par contre, une fois qu'il le nomme, qu'il le laisse bosser, qu'il lui foute la paix. D'accord?
Ça, c'est mort.
On recommencera. Poubelles rebrûleront au mois de juin.
On change Elisabeth Borne ou pas, Benjamin Muller?
Ah ouais, et alors je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond. On attend Lecornu. Je veux dire, les Français, moi je voyais hier, ils avaient des pancartes nous, à Matignon, tout. Il y a vraiment une dynamique.
Mes enfants m'en ont parlé encore hier soir.
Bien sûr, les enfants sont fans, évidemment, mais même les retraités, c'est vraiment.
Attendez, c'est une hypothèse.
À mon avis, là on voit sa photo, je veux dire.
Mais c'est bien qu'on la voit parce qu'on l'avait pas en tête.
Oui, c'est ça.
On n'en a pas beaucoup parlé de Sébastien Lecornu. Là, Macron a été élu il y a 10 mois, mais c'est vrai qu'on. Je ne me rappelle pas d'une interview de Sébastien Lecornu.
Et il y a Darmanin.
Ministre de la défense, vu qu'il y a une guerre en Ukraine, on aurait pu peut-être avoir un petit truc.
On pourrait en entendre parler.
Non, je.
Effectivement.
Ceux qui nous écoutent en radio, on ne voit toujours pas qui c'est.
Écoutez, c'est un monsieur qui a une petite barbe de 3 jours. Voilà.
Moi, je me retourne pour
moi, je trouve que le cornu, Séjourné, Gabriel Attal, tout ça, c'est des mini-Macron. Et nommer un de ces mini-Macron qui ont sans doute plein de qualités, Gabriel Attal est très facile, etc. Mais nommer ces gens-là à Matignon serait une folie parce que ça l'enferme encore plus.
Ça veut dire qu'il veut garder la main.
Et oui, et de toute façon, il veut garder la main. Moi, j'aime beaucoup, Perico, le côté, votre idée là.
Article 20.
L'article 20, il vient, il dit en gros, moi, je vais superviser, etc. Sauf qu'on sait tous qu'il fera jamais ça, Macron.
Mais jamais. Lui,
il veut tirer les fils.
Mais peut-être qu'il n'a pas à se représenter, ça serait peut-être occasion.
En revanche, ce que j'aimais bien, c'est votre deuxième partie, un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est quelque chose. Moi, je trouve.
Avec qui
Union, non, mais de cohésion nationale.
Oui, un gouvernement.
Avec qui
Avec Laurent Berger, j'y reviens. Avec, chez les Républicains, il y en a quand même avec qui il peut travailler. À gauche, je pense qu'on peut aussi trouver.
Ah bon, qui
Qui veut travailler avec Macron, aujourd'hui, droite?
Ouais, vous proposez des ministères, vous inquiétez pas, ils voudront travailler.
Il n'a pas réussi à trouver déjà. Il a déjà pas réussi à trouver une majorité à l'Assemblée, alors créer un gouvernement d'union nationale, ça va être compliqué.
Oui, enfin, vaut mieux ça que dire, allez, jeune homme, séjourné, et on fait un petit micmac de chaises musicales entre les macronistes pour au final rien changer. S'il change Elisabeth Borne, moi, je pense pas qu'il faille la changer de manière. Moi, je pense pas que le problème vienne. On pourrait rappeler Édouard Philippe aussi, vous voyez. Il y a quand même plein de gens qui
pensent qu'il n'accepterait pas.
Moi, je pense qu'entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, la limite. La frontière politique est assez fine. Donc en fait, entre tout ce monde-là, je pense qu'il y aurait quand même.
Mais encore une fois, ça s'est pas retrouvé à la
Mais Bayrou pour ses ennuis judiciaires. Bah oui, c'est ça. Même s'il est déjà au maquillage.
C'est dommage. En fait, il rate toujours un peu, François Bayrou.
C'est un homme d'État.
C'est déjà un homme d'État, mais enfin, on peut pas savoir.
Il a une toute petite casserole qui est vraiment pas méchante par rapport
à. Oui, mais à chaque fois, il rate de peu.
Mais ça m'énerve que Macron, qui est intelligent, prenne pas de décision intelligente.
Ceux qui passent à côté de l'histoire et ceux qui
vous voyez, j'ai encore confiance dans l'intelligence d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il va rebondir.
Ça sauve pas tout.
Parce que Julien, après, on parlait aussi de Gérald Darmanin. Au poste de Premier ministre.
Ah, oui.
Ça, c'est pour vous énerver. Oui.
Lui aussi, il a des casseroles, c'est la vie.
Oui, mais lui, c'est pas des casseroles qui dérangent la Macronie, visiblement. Comme ils ont entre-temps quand même bien nommé Damien Abad.
D'accord, Estelle, imaginez le symbole.
Mais le symbole, il est déjà ministre de l'Intérieur et donc il dirige la police qui est censée recueillir les plaintes de femmes victimes de violences. Donc en fait, le symbole, il est déjà par terre.
Il a téléphoné à la police pour empêcher les...
Je ne dis pas ça, on parle des symboles. On parlait de symboles. Donc je réponds au sujet du symbole. Non, je pense que l'extrait qu'on a entendu des grandes gueules était intéressant. En réalité, je ne suis pas sûre que virer Elisabeth Borne assagisse le peuple. Je ne crois pas que, à part 2-3 pancartes sur on a
ça
dépassé les bornes,
parce que
ça fait un bon jeu de mots, la plupart, aussi, voilà, c'est ça, tu dépasses les bornes, etc. La plupart, la personne borné, contre exactement. Qui la majorité des gens en a, c'est Emmanuel Macron lui-même. Mais ça, je le rappelle, cette situation, c'est lui qui l'a créée, parce qu'en se mettant comme unique interlocuteur, en méprisant les corps intermédiaires, en faisant élire des députés Playmobil, en ayant des ministres qui soit loyaux, absolus, soit pions. Il se pose en interlocuteur unique et donc en adversaire unique. Et donc ça, c'est pour ça que je ne suis pas sûre que cette logique du fusible qu'on utilise quand c'est un peu compliqué fonctionne avec lui. D'accord. Parce que vu la charge que lui-même porte...
C'est pour ça qu'il faut changer la règle du jeu.
Bah alors ça,
et il peut
le
faire.
Tout le monde sait que je suis pour une 6ème
République. Constitutionnellement, il peut le faire. Moi j'ai une idée, je la donnerai une autre fois.
Oui, sauf si elle est courte.
Il s'appelle Jacques Mézard, c'est l'ancien ministre de la cohésion et territoire, ancien sénateur du Cantal, un homme politique radical. Non, il n'est pas connu. Je vous dis, c'est l'homme de la situation.
Ah bon ?
Et il est proche du président de la République.
Et c'est bien de nous le présenter, ce monsieur.
Jacques Mézard, ancien président du groupe des radicaux au Sénat. Il est au Conseil constitutionnel. Ah. C'est vraiment un sage. C'est un homme qui connaît la France par cœur. Et qui a des théories sur tout ce qu'il faut réformer dans ce pays. Très pertinente. Voilà, Jacques Mézard.
Il est au PRG.
Très bien.
Hein ? Il est au PRG.
Radical.
Alors, nous allons changer de sujet. Apolline Matin, ce matin sur RMC, nos commerces sont-ils en train de mourir? Pour Thierry Marx, chef étoilé et président de l'UMI, c'est l'Union Nationale des Métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration, la multiplication des crises sociales et économiques pèse sur les trésoreries des restaurants et des hôtels qui ne s'en sortent plus. Écoutez.
L'activité des restaurants et des hôtels, moins 50% pour les restaurants, que ce soit dans les grandes villes ou en ruralité, et puis les annulations dans les hôtels. Aujourd'hui, on est impacté très fortement avec une vraie inquiétude, parce que c'est pas cette crise sociale, c'est une succession de crises que nous vivons. la crise de l'énergie, qui est toujours un dossier qui n'est pas refermé, l'augmentation des coûts des matières premières et cette flambée des matières premières, et aujourd'hui cette crise sociale qui amène une tension excessive et qui pèse. Aujourd'hui, les annulations, elles sont là, et nos trésoreries sont d'une fragilité absolue, parce que c'est eu, encore une fois, une succession de crises. Donc cette crise sociale, nous, on n'a pas à prendre parti, mais aujourd'hui, elle impacte fortement, et on s'interroge, savoir si ça continue, il faudra probablement faire appel au chômage partiel, ou à des motivations comme celle-là. On a une telle fragilité de nos trésoreries, qu'on ne peut pas accumuler d'autres crises.
Est-ce que nos commerces sont en train de mourir, Benjamin Muller ?
Oui, c'est très inquiétant, je trouve, ces propos. Il se trouve que hier soir, après ma grande journée à la manif, je suis allé au resto dans le quartier de Saint-Germain, pour tout vous dire. Et effectivement, il faut vraiment le vouloir d'aller au resto.
Ouais, mais il y a des chiffres. Il y a justement le groupement des hôtelleries et restaurations de France qui dit que face à l'accumulation, à Paris et dans les grandes villes, face à l'accumulation des ordures, lorsque vous avez une façade de restaurant qui est recouverte de sacs poubelles, ça donne pas envie d'y aller. Dans les restaurants aussi, enfin dans les coins aussi où il y a des tensions, où il y a des dégradations, etc. Les chiffres, c'est 25% de consommateurs en moins dans les restaurants.
Beaucoup, ouais, évidemment.
Et encore, moi, je m'attendais à ce que ce soit pire, parce qu'en fait, les conditions sont vraiment.
C'est une moyenne.
Là, ça devient vraiment dégueu.
C'est une moyenne.
C'est une période difficile.
Ouais. Et alors là, il y a un petit problème.
Enfin, c'est que sort toujours d'une période difficile.
Mais les pauvres, c'est factuel, Estelle. C'est pas de votre faute.
Il y a un petit truc, c'est que le vent arrive, notamment à Paris.
Le vent,
vous savez, le météo classique. Ce qui fait que, en fait, j'entendais Anne Hidalgo qui est une grande météorologue. Oui, non, mais c'est véridique.
Et les odeurs vont se déplacer.
Et ce matin, en venant ici en vélo, j'ai vu effectivement des poubelles qui commencent un petit peu partout. Donc c'est le bordel. Mmh. On parle des restos, mais il faut aussi imaginer les
commerces.
Le moindre commerce. Et surtout, avec le beau temps qui pourrait arriver, boire un coup d'heure, etc.
Il arrive pas la semaine prochaine, là.
Oui, mais il faudrait pas que ça dure. C'est ça que je veux dire.
Le roi Charles,
là, il pleut la semaine prochaine, toute la semaine, donc.
Boire un petit café dehors, ces conditions, je veux dire, c'est inimaginable.
Oui, là,
allez-y, Louis.
Bah, là encore, je pense que la solution, elle est assez claire. Enfin, encore une fois, la revendication de retrait ou en tout cas de suspension, elle est simple à mettre en œuvre. Enfin, il suffit d'une parole du président pour que tout ça disparaisse. Et ça, je le rappelle quand même, parce que en réalité, les éboueurs, ils ont reconduit leur grève là jusqu'au 27 mars. Le jour où Emmanuel Macron annonce le retrait ou au moins la suspension avec condition de cette réforme, ils retournent au travail. Enfin, c'est les premiers à ne pas être payés. Je veux dire, et eux aussi, ils habitent dans des endroits où les ordures ne sont pas ramassées.
En moyenne, il y a que 6%.
Donc, 6%, bien sûr. Non, mais c'est en roulement. Donc, en fait, si tu veux 6%, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait grève le lundi, l'autre le mardi.
Exactement.
Il ne rogne pas sur beaucoup de jours de salaire.
Oui, je suis d'accord. Mais le fait est que. Et par ailleurs, pour revenir aussi sur les restaurants, je pense qu'au-delà de cet épiphénomène des manifestations, il y a un vrai enjeu d'inflation. Enfin, tout a augmenté de plusieurs euros chaque plat. Enfin, je veux dire, moi, dans des restos où j'allais il y a 2 ans et où je retourne maintenant, il y a des plats, des trucs qui ont pris 25%. Mmh. Aujourd'hui, on peut pas payer ça.
Enfin, forcément, les jours de grève, par exemple, c'est ce que disait encore une fois Lumi, c'est moins 50% en moyenne dans les restaurants. Forcément.
Le tableau qu'a dressé Thierry Marx est réel. Il connaît bien son dossier. On peut dire que c'est tout le commerce de proximité en France qui est menacé. Ceux qui sont en plus dans l'artisanat avec une précarité, j'allais dire une fragilité parce que c'est la qualité, je pense, et il y en a qui ferment. Quand on voit les statistiques des commerces fermés depuis le Covid, alors pour les
notamment la restauration, vous avez raison de dire, c'est plus 100% par
an. Là, c'est un coup dur de plus. C'est un coup très dur. Je pense que nous devons partir du principe que nous allons perdre d'ici 5 ou 6 ans un tiers de nos capacités d'accueil de commerce de restaurants.
Hein, un tiers de restaurants?
Mais pourquoi?
Parce qu'ils vont fermer. Là, je les vois, c'est mon métier. Hein. Oui. Mais parce qu'ils sont à bout. Soit ce sont des gens qui ont 60, 65 ans, qui n'ont pas trouvé de successeur, qui ne trouvent pas de responsable, qui ne trouvent pas d'employés. Voilà. Et ensuite, la matière première, le changement de comportement. On disait hier, le sandwich qui est en train de supplanter. Là, il y a aujourd'hui des maisons qui sont formidables. Les gens, même s'ils ne crèvent pas d'une faillite, ils vont jeter l'éponge parce qu'ils en ont marre. Voilà. Et là, cri d'alerte de Thierry Marx est très important. Au pouvoir public à prendre. Il faut sauver le tissu social français. C'est le commerce de proximité, c'est nos bistrots, c'est nos restaurants.
Dites-le au gouvernement.
Mais c'est pas que ça. Je suis désolée. Et après, les restaurateurs, les commerces dans les grandes villes, ils ont aussi beaucoup souffert des gilets jaunes.
Oui.
Le fait de fermer le samedi, qui doit être le meilleur jour, pendant des mois et des mois,
ça fait
là aussi,
ans,
ça les a perdus.
Ça fait 5 ans qu'ils sont dans ce
la tour. Là aussi, la balle était dans le camp d'Emmanuel Macron.
Mais non, mais
à chaque fois, c'est la faute d'Emmanuel Macron.
Pour le Covid, ça n'est pas le cas. Pour l'inflation,
mais je suis d'accord. Bien par rapport aux autres.
Mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça. Tu parlais des gilets jaunes, donc je te réponds sur le sujet des gilets jaunes.
Sociétal où je pense qu'on a les plus jeunes aujourd'hui ont plus envie de bosser jusque minuit ou une heure du matin.
Il y a tout ça.
Pas voir les enfants.
Le cumul de ces entraves et même le Covid a été un coup dur. Heureusement qu'ils ont été soutenus héroïquement par ce gouvernement. Malgré tout, ça a changé les mœurs et les comportements. Voilà. Oui. Donc là, on a un patrimoine culturel et économique.
Une grande réflexion, un grand débat national sur le sujet.
Bien sûr.
De prendre le temps d'y réfléchir, en fait.
De réfléchir à quoi?
Mais Macron, ça fait partie des. Tout à l'heure, on réfléchissait sur les
conditions de travail.
Les conditions de travail, toutes ces choses.
La loi de travail,
pas forcément
Et nos paysans qui meurent. Et les paysans, ce sont ceux qui alimentent aussi. Il y a toute une chaîne qui est en train d'être fragilisée. Il faut justement. Et c'est là où on a besoin d'une cohésion nationale. Ouais. Sauvons ce patrimoine culturel et
national. Je veux juste finir là-dessus. Notamment, tu parles des paysans, mais là aussi, la responsabilité politique, elle est majeure, notamment au niveau de l'Union européenne. Quand on a une politique agricole commune qui valorise, plus t'as une grande exploitation, plus t'as des grosse machine, plus c'est valorisé.
Ce sont les causes techniques.
Voilà, non, mais je veux dire, il faut quand même le dire parce que.
Sébastien Lecornu va régler le problème.
On sauvera pas tout en mangeant du quinoa bio et du petit épeautre.
Mais je ne dis pas ça, moi-même, je sais pas ce que je fais. Par ailleurs, le quinoa bio, ça pousse pas en France. Moi, j'essaye de privilégier les circuits courts. Mais je pense aussi, et il faut vraiment le dire, que dans ce contexte, aujourd'hui, aller au cinéma, aller au restaurant, c'est inabordable pour une grande majorité de gens en précarité. Enfin, quand on voit le salaire médian, il est à 1700 euros. Enfin, quand tu as payé ton crédit, ton essence, la nounou, la cantine.
Mais en fait, malheureusement, tu vas pas supprimer les restaurants.
Ah non, 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 bien sûr, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a aussi.
Les restaurateurs, ce n'est pas des
nouveaux. Non,
le pouvoir d'achat est en train de baisser systématiquement. C'est une clientèle.
Disons que là, c'est un peu pas la faute à personne, mais je veux dire, c'est ni la faute des restaurateurs, ni la faute du public, là, en l'occurrence.
Bon.
Dans un instant, le rendez-vous des notaires, on parlera immobilier, tiens, dans ce rendez-vous. Et puis ensuite, écoutez, on parlera infidélité. Je vous demanderai à tous si vous avez déjà été infidèle au cours de votre vie. Et vous me répondrez non, bien sûr, c'est normal. Voilà, je tenterai de vous poser la question.
Et vous répondrez aussi, Estelle, j'imagine.
Moi, je n'en ai jamais été. Pourquoi je vous poserai la question? Parce qu'on va se demander si on peut rester fidèle toute sa vie. Peut-on rester avec la même personne toute sa vie? On attend, bien sûr, vos témoignages. Dites-nous si vous êtes avec le même compagnon ou la même compagne depuis 50 ans et que c'est le bonheur parfait depuis 50 ans, ou si au contraire, eh bien, parfois il vous arrive quand même d'aller voir ailleurs et puis que vous revenez et que vous êtes bien. Voilà, ben, racontez-nous votre vie. On vous attend au 32-16 sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est vendredi et le vendredi, c'est le jour des notaires. Le rendez-vous des notaires, on parie en immobilier.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Coralie Fouenard, notaire à Lyon. Bonjour maître.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et on a une question de Jules. Jules, il a 35 ans et voici ce qu'il nous demande. Bonjour, avec la fin de la pandémie, j'envisage sérieusement d'aller travailler à l'étranger. Je suis propriétaire de ma maison et j'envisage de la vendre une fois que je serai installé dans un nouveau pays. Est-ce possible? Et à quoi faut-il que je fasse attention? On se dit, oui, pourquoi ce serait impossible?
En fait, déjà, je voudrais féliciter Jules parce que la question n'est pas évidente pour tout le monde.
Complètement.
Parce que souvent, on pense que parce que l'immeuble est en France ou qu'on est français, notre loi française va nous suivre. Et c'est une fausse idée. Pourquoi? Parce que quand on inclut dans notre situation ce qu'on appelle, nous, un élément d'extranéité, c'est-à-dire une nationalité étrangère, une résidence à l'étranger, eh bien, se met en route tout un corps de règles qui s'appelle le droit international. Et ce droit international, qui est composé de règlements européens, de traités internationaux, nous dit, par exemple, à telle situation, ça sera la loi française. Mais ça peut être la loi de résidence de Jules.
Alors, il fait quoi, Jules?
Alors, Jules, pour répondre à sa question, oui, c'est possible. En revanche, effectivement, il a raison de se poser la question, est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Alors, la première chose, c'est une question fiscale, puisque vous savez, quand on vend, il y a un impôt qui peut être perçu, c'est l'impôt sur la plus-value. Alors, il y a des cas d'exonération pour les expatriés, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand vous partez dans un autre pays, ce pays-là aussi peut vouloir taxer au titre des plus-values. Donc, on va se retrouver dans un cas qu'on appelle de double imposition, c'est-à-dire que vous avez deux pays sur une transaction donnée, voudront tous les deux taxer cette transaction. Et donc, c'est une double imposition.
Alors, mais je comprends pas, attendez... Jules, il a une maison en France. Il décide de partir, mettons, j'ai n'importe quoi, en Allemagne. Mais sa maison, je vois pourquoi l'Allemagne prenait de l'argent dessus.
Eh ben parce que la plus-value, c'est lié aussi à l'impôt sur le revenu, et donc l'Allemagne peut vouloir effectivement prendre une taxe sur cette transaction. Et donc vous avez deux pays qui vont vouloir.
Ça, c'est s'il est déjà parti avant de vendre sa maison.
Exactement, puisque là, il est en train de nous dire qu'il il vendra une fois qu'il sera parti.
D'accord.
Donc peut-être que le conseil à donner à Jules, c'est d'aller voir son notaire, et peut-être qu'il faudra vendre avant qu'il parte pour éviter de se retrouver avec une double fiscalité.
D'accord.
Et la deuxième chose aussi que je voudrais dire à Jules, c'est que peut-être qu'il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il va faire de ce prix de vente. Parce que s'il veut l'investir dans son nouveau pays de résidence, il faut qu'il s'interroge sur est-ce que je peux le faire ? Parce qu'il y a certains pays qui limitent l'accès à l'acquisition à leurs nationaux. Donc, il faut aussi qu'il prenne attache avec un conseil sur place. Et puis, si par exemple, il veut juste l'encaisser dans son nouveau pays de résidence, s'il revient en France, est-ce qu'il va pouvoir rapatrier cet argent ? Parce que des fois, en pratique, on se rend compte que des fois, c'est pas si simple que ça.
Mais non, ça a l'air même très très compliqué. Maître, finalement, vaut mieux rester en France, en fait.
Globalement.
Pas vendre, pas
non,
vendre,
non c'est un beau pays, la France. Donc oui, on est bien en France. Mais alors, de s'expatrier, c'est une bonne chose aussi. Simplement, il faut pouvoir anticiper. Il faut anticiper cette situation.
Plus globalement, Maître, on va arrêter avec Jules. Vous avez répondu à sa question. Quand on est aujourd'hui un particulier en France, qu'on est propriétaire, qu'on veut vendre sa maison, ce qui est pas mal le cas en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont besoin d'argent, on doit faire attention à quoi, en fait ?
Alors, justement, c'est cette question de fiscalité. Et puis, on doit faire attention. Alors, on a tout un tas de diagnostics à fournir à notre acquéreur. Il y a une petite inflation sur ces diagnostics-là. Et puis, il faut aussi faire attention à l'acquéreur avec qui on contracte, hein, parce que des fois, on peut se retrouver avec des acquéreurs farfelu, on va dire. Et donc, quand vous êtes engagé dans une promesse de vente, vous êtes définitivement engagé en tant que vendeur. Donc, il faut que votre acquéreur derrière.
Si l'acquéreur dit finalement je me rétracte, vous pouvez récupérer 10%.
Ah, bien sûr, mais encore faut-il qu'il dise je me rétracte et j'abandonne l'histoire. Donc, tant que lui, il s'entête à vouloir acquérir, on peut être un moment porté un peu loin.
Merci beaucoup, Maître, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on ne répétera jamais assez. Il faut aller voir son notaire avant de se marier, de divorcer, de se taxer, d'acheter, de vendre un bien.
Exactement, parce que.
Avant d'être infidèle également.
L'infidélité n'a pas de frontières. Et donc, effectivement, quand on s'expatrie, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe en cas de divorce sur nos biens en France.
Ah oui.
Donc, c'est une question intéressante. Et je voudrais juste signaler qu'il y a le salon de l'expatriation, s'expatrier mode d'emploi, mercredi 29 mars. Où vous pourrez aller à la rencontre des notaires pour poser vos questions. Et il y aura aussi des conférences qui seront après retransmises.
Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous. Le rendez-vous des notaires tous les vendredis dans Estelle Midi. Dans un instant, on se posera cette question. Peut-on rester fidèle toute sa vie ? Est-ce que c'est possible ? On attend bien sûr vos témoignages, vos retours d'expérience, comme on dit, dans Estelle Midi sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.